الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا اليوم هو 23 من شهر جماد الأولى لعام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدرس هو 49 في قراءة الكتاب المبارك الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام أبي الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير رحمه الله تعالى. Nous sommes le 14 mars 2015 et ceci est le 49e cours de l'étude de ce livre dans la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par l'auteur l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Nous avons vu les comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant sa description physique sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donné à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les meilleurs comportements, et même au niveau de son physique sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala lui a fait don d'un corps complet. Bien qu'il soit toujours un homme, il est sujet à l'erreur, à la faiblesse, à la fatigue, à la tristesse, à la faim, à la soif, à l'oubli, à la pauvreté, car on ne fait pas d'excès dans ce domaine. Malgré tout, en tant qu'être humain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu un physique assez complet, tout comme il a eu un comportement aussi beau que son physique sallallahu alayhi wa sallam, et nous avons pu lire certains textes s'y référant. Ensuite, nous avons vu les différents endroits où s'est déplacé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au cours de sa prophétie et tout au long de sa vie de messager alayhi salatu wassalam. Le nouveau chapitre porte sur les choses qu'a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'a entendu, que ce soit de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala ou bien de la part des anges envoyé d'Allah Azza wa Jal, ou ce que vous allez entendre inshallah. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فصل قد قدمنا انه صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله عز وجل وخطابه له ليلة الإسراء حيث يقول فنوديت ان قد اتممت فريضتي وخففت عن عبادي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي هي خمس وهي خمسون الحديث رواه البخاري فمثل هذا لا يقوله إلا رب العالمين كما في قوله تعالى لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري قال علماء السلف وأئمتهم هذا من أدل الدلائل على أن كلام الله غير مخلوق لأن هذا لا يقوم بذات مخلوقة وقال جماعة منهم من زعم أن قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر لأنه بزعمه يكون ذلك المحل المخلوق قد دعا موسى إلى عبادته وقد بسط هذا في غير هذا الموضع وقد روى صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أحاديث كثيرة كحديث يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته الحديث وقد رواه مسلم. Ibn Kathir رحمه الله تعالى passe au chapitre concernant ce qu'a entendu le prophète صلى الله عليه وسلم et donc a rapporté à sa communauté. Que ce soit ce qu'il a entendu de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala directement, car nous avons vu dans la sira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu ou a entendu les paroles de son Seigneur subhanahu wa ta'ala au cours du voyage nocturne. Allah s'est adressé à lui sans qu'il n'ait besoin de traducteur ou d'intermédiaire. Il l'a entendu directement, et ceci fait l'objet de l'unanimité des savants de la sunna. Allah tabaraka wa ta'ala a parlé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le point de divergence c'est: l'a-t-il vu ou non? Et on a déjà lu ce que l'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit dans ce livre. Aussi, Ibn Kathir va parler de ce qu'a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la part des anges. Et vous en verrez, inshallah ta'ala, peut-être certains exemples. Il commence en disant: nous avons déjà dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu les paroles d'Allah le Tout-Puissant, les paroles qu'Allah le Tout-Puissant lui a adressées lors du voyage nocturne, comme il le rapporte lui-même. Donc ici c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte à ses compagnons certaines des choses qui se sont passées au cours de cette nuit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce fameux voyage nocturne. Il dit: ces paroles me furent alors adressées. J'ai parfait les obligations religieuses imposées à mes serviteurs tout en les allégeant. Ô Muhammad, mes décrets sont immuables, c'est-à-dire inchangeables. Il y aura donc 5 prières équivalentes en récompense à 50 prières. Qui est-ce qui s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes? C'est donc Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui rappelant ce bienfait par lequel il l'a comblé lorsqu'il lui a légiféré au début 50 prières qui ensuite sont revenues à combien? À 5. Par la cause de quel personnage? Naam. Par la cause du prophète Moussa alayhi salam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était élevé et allait écouter ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala allait lui légiférer comme prière, il a commencé par lui légiférer 50. Puis quand il est descendu au ciel où se trouvait Moussa et qu'il est passé près de lui alayhi salam, Moussa a entamé un dialogue avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui demandant qu'est-ce qu'Allah lui a légiféré. Et Moussa de répondre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam de lui répondre qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a légiféré 50. Puis il n'a cessé de faire le va-et-vient entre Allah tabaraka wa ta'ala puis Moussa alayhi salam, qui lui demandait à chaque fois de revenir auprès d'Allah et lui demander d'alléger le nombre de prières jusqu'à ce que le nombre est arrivé à 5. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit que ces 5 prières auront la récompense de 50. Et ceci est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc une preuve qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'est bien adressé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, ces dernières paroles ne peuvent avoir été prononcées que par le Seigneur des mondes, Azza wa Jal, à l'image de ces autres paroles adressées par Allah tabaraka wa ta'ala à Moussa, et c'est le sens du verset où Allah Azza wa Jal s'est adressé à Moussa alayhi salam: Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. En vérité, c'est moi Allah, il n'y a de divinité que moi, adore-moi donc et accomplis la prière pour te souvenir de moi, ou pour mon rappel. Vous allez voir qu'Ibn Kathir rahimahullah ta'ala va montrer un point de la croyance des gens de la sunna, qui est de dire que le Coran n'est pas une créature, c'est un attribut d'Allah. Le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec laquelle il s'est adressé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon claire et éloquente, si bien qu'il n'a laissé aucune incompréhension ni ambiguïté. subhanahu wa ta'ala. Mais certains parmi les égarés, notamment les adeptes de la secte très égarée dans la croyance dite Al-Mu'tazila, et ceux qui les suivirent, parmi ceux qui ont été affectés par leurs ambiguïtés, comme les philosophes ou autres, ont dit que le Coran est une créature d'Allah. Ils ont voulu par cela nier le fait qu'Allah puisse s'adresser à son serviteur par des paroles, Azza wa Jal. Ils ont donc dit, le Coran est une créature, au même titre qu'Allah a créé l'arbre et l'a appelé arbre, la mer et l'a appelé mer, il a créé le Coran et l'a appelé Coran. Wal'iyadu billah. Les savants de la Sunna ont réfuté cette ambiguïté avec le Coran et la Sunna comme à leur habitude. Ils ont dit, celui qui dit, comme le dit ici Ibn Kathir rahimahullah, et vous allez l'entendre, ils ont dit que celui qui dit que le Coran est créé, Allah ici dit Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. En vérité, c'est moi Allah, il n'y a de divinité que moi, adore-moi donc. Celui qui dit que le Coran est créé a mécru en Allah Azza wa Jal, parce que est-ce qu'une créature peut dire c'est moi Allah, il n'y a de divinité que moi, adore-moi donc? Bien sûr que non. Donc vous voyez qu'en réalité, les ambiguïtés qui sont émises par les gens aux croyances erronées, déviantes, ne sont que faibles. Elles sont d'ailleurs plus faibles que la toile d'araignée. Et bien sûr, pour ceux qui ont la science et qui savent répondre à ces ambiguïtés. Donc, dans la traduction, Ibn Kathir dit, certains parmi eux affirment même que celui qui prétend que les paroles, en vérité, c'est moi Allah, il n'y a de divinité que moi, adore-moi donc, sont créés, est un mécréant, car il prétend que ce lieu créé a appelé Moussa à son adoration. Ce lieu, c'est le mont Sinaï, où Allah Azza wa Jal s'est adressé à Moussa. Mais ce sujet a été traité en détail, par ailleurs. En outre, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rapporté plus d'un hadith d'après son Seigneur Tout-Puissant, comme celui-ci rapporté par Muslim. Ce hadith est connu sous le nom de hadith Ya Ibadi, hadith ô mes serviteurs. Vous le retrouvez dans l'ouvrage de l'imam Nawawi, le hadith 24, dans les 40 hadiths. Il est rapporté par Muslim selon Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu. Le hadith est assez long. Dans celui-ci, Allah Azza wa Jal s'adresse à nous autres, les croyants, par ces termes ou en ces termes, Ya Ibadi. Kullukum ja'i'un illa man at'amtu. Ô vous mes serviteurs, vous êtes tous affamés, sauf celui que je nourris. Fastat'imuni ut'imkum. Demandez-moi de vous nourrir et je le ferai. Dans ce hadith, on voit bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'est adressé à ses serviteurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle quand il veut et comme il veut, Azza wa Jal. Et ceci a une relation avec le chapitre ici, car le chapitre c'est ce qu'a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit des paroles d'Allah Azza wa Jal ou des paroles des anges qu'il a transmises à ses compagnons. Radiyallahu ta'ala anhum. Donc ce hadith est connu et il a d'ailleurs été commenté par nombreux savants et c'est facile à le retrouver inshallah. وله أشباه كثيرة وقد أفرد العلماء في هذا الفصل مصنفات في ذكر الأحاديث الإلهية فجمع زاهر بن طاهر في ذلك مصنفا وكذلك الحافظ الضياء أيضا وجمع علي بن بلبان مجلدا رأيته يشتمل على نحو من 100 حديث وقد ذهب جماعة من أهل الحديث والأصول إلى أن السنة كلها بالوحي لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Ibn Kathir a dit ce qui veut dire, il existe bien d'autres hadiths semblables à celui-ci dans les hadiths, ce qu'on appelle al-hadith al-ahadith al-ilahiyya, les hadiths divins. On les appelle aussi les hadiths, al-ahadith al-qudsiyya. Lorsque l'on dit al-ahadith al-ilahiyya, c'est en référence au nom d'Allah Azza wa Jal, al-ilah. Et lorsqu'on l'on dit al-hadith al-qudsiyya, c'est en référence avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-quddus. Ce sont donc des paroles attribuées à Allah Azza wa Jal qui ne sont pas dans le Coran. Et la différence dans plusieurs points, parmi lesquels ces paroles-là sont sujettes à l'authenticité ou la faiblesse, de même que le sont les hadiths. Alors que les paroles d'Allah Azza wa Jal dans le Coran ne sont pas sujettes à la faiblesse. Lorsque nous disons qu'elles sont sujettes, donc les paroles qui sont citées en tant que hadith, à la faiblesse ou à l'authenticité, la parole d'Allah Azza wa Jal n'est qu'authentique. Mais c'est l'information de dire que cette parole vient d'Allah Azza wa Jal qui est sujet à l'authenticité ou à la faiblesse. Il existe bien d'autres hadiths semblables à celui-ci constituant une révélation divine que les savants de l'islam ont rassemblés dans des ouvrages particuliers à l'image de Zahir ibn Tahir ou l'érudit al-Diyya, Muhammad ibn al-Diyya al-Maqdisi, rahimahullah ta'ala, qui fait partie des savants de l'époque. De même, Ali ibn Balaban les a rassemblés dans un recueil regroupant près de 100 hadiths de ce type que j'ai pu voir. C'est-à-dire que l'imam ibn Kathir rahimahullah a vu ce rassemblement de hadiths fait par cet homme dont vous venez d'entendre le nom. Si ce n'est que le Cheikh Abdul Razak ibn Abd al-Muhsin al-Abbad hafidhahum Allah ta'ala a notifié ici que lui-même est revenu à cet ouvrage qui est aujourd'hui imprimé et donc disponible. Il y a trouvé de nombreuses histoires qui sont complètement infondées, qui sont fausses. Si bien que le Cheikh a dit, si seulement il s'était contenté de citer les hadiths divins, sans citer avec les histoires qui sont fausses et qui sont même forgées et inventées. Il continue et dit, rahimahullah ta'ala, toutefois, certains des savants du hadith et des fondements, al-usul, c'est-à-dire les fondements de la jurisprudence, considèrent que tous les hadiths prophétiques constituent une révélation divine, conformément aux paroles d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est la traduction, et ne prononcent rien sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est simplifiée. Effectivement, comme a dit Cheikh Abdul Razak et comme disent les savants de la Sunna, il fait partie de la croyance des gens de la Sunna de dire que le Coran est une révélation d'Allah, tout comme l'est la Sunna. La Sunna est une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si bien que ne fait pas partie des gens de la Sunna celui qui sépare le Coran de la Sunna. Il existe certaines sectes parmi lesquelles Al-Qur'aniyun, hein, les Coranites, ceux qui prétendent ne suivre que le Coran, alors que ceci est complètement impossible de ne suivre que le Coran, car certains textes dans le Coran ont été détaillés par la Sunna, le nombre de rak'a, l'argent à donner, qui est l'ayant droit parmi ceux qui méritent la zakat. Tout ceci vous le trouvez dans la Sunna. La description du pèlerinage en détail, vous le trouvez dans la Sunna. Donc, ceux-ci sont égarés. Si des autres disent qu'ils ne suivent que la Sunna, ils s'égarent. Le Coran et la Sunna font pair, ils sont les deux bases qui sont la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette question abordée dans les ouvrages d'Usul al-Fiqh, les fondements de la jurisprudence, fut magistralement traité par l'érudit Abu Bakr al-Bayhaqi dans son livre intitulé Al-Matral et la Sunan. وهذه المسألة مقررة في كتب الأصول وقد أتقنها الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه المدخل إلى السنن. قال رحمه الله واختلفوا هل رأى ربه سبحانه كما قدمنا وقد رأى جبريل عليه السلام هناك على صورته وكان قد رآه قبل ذلك منهبطا من السماء إلى الأرض على الصورة التي خلق عليها وذلك في ابتداء الوحي وهو المعني بقوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. Il cite la question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il vu son Seigneur ou non? Comme nous l'avons évoqué précédemment, les savants de l'islam ont divergé sur cette question. Donc cela, on l'a déjà vu à deux reprises. On l'a vu dans le chapitre sur le voyage nocturne et on l'a vu dans un des derniers chapitres. Et on a cité les paroles des savants et ce qu'a retenu l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, en se basant sur le hadith rapporté par Muslim, quand le prophète fut interrogé, « هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ قَالَ نُورٌ أَنَّ أَرَى » As-tu vu ton Seigneur ? Il répondit, « Une lumière, comment pourrais-je la voir ?» On a cité les paroles des savants dans ce passage-là. En revanche, nul doute à ce sujet. Il a vu lors du voyage nocturne Jibril sous sa forme réelle, et ce, après l'avoir vu une première fois, au début de la révélation sous sa forme réelle, descendant du ciel vers la terre. Tel est d'ailleurs le sens des paroles d'Allah Azza wa Jal. C'est donc la traduction rapprochée. Que lui a enseigné celui qui est doté d'une force prodigieuse et d'une grande vigueur. Il s'est installé à l'horizon supérieur, puis il se rapprocha et descendit encore plus bas et fut à une distance égale à la longueur des deux arcs, voire plus près encore. Donc, maintenant, Ibn Kathir parle de ces deux moments où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu l'ange Jibril sous sa véritable forme. Car Jibril s'est présenté à maintes reprises au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous la forme d'un compagnon. Qui est ce compagnon? Personne ne s'en souvient. Jibril alayhi salam venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il prenait la forme d'un compagnon. Dihyatul Kalbi radiyallahu anhu, qui faisait partie des compagnons les plus beaux, radiyallahu ta'ala anhu. Mais à part ces moments-là où il l'a vu sous la forme humaine, il l'a vu sous sa véritable forme à deux reprises. La première fois lors d'une révélation où il a été interpellé, ya Muhammad, puis il a cherché, il n'a pas vu. Une deuxième fois jusqu'à lever sa tête au ciel, et alors il vit Jibril alayhi salam sous sa véritable forme. Il avait 600 ailes avec lesquelles il recouvrait tout l'horizon. Subhanallah. Et les savants de la sunna, quand ils citent dans les livres de Aqida, par exemple la description des anges, ils citent une faïda, un point bénéfique de la plus haute importance, qui peut-être échappe à beaucoup de gens. Pourquoi préciser la grandeur de Jibril? Pourquoi préciser la grandeur du trône? Pourquoi préciser la force des anges? Quelle est la réponse? Ibrahim. Exactement. Pour comprendre l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu sais que Jibril a 600 ailes avec lesquelles il recouvre tout l'horizon, et tu sais qu'il n'est qu'une des créatures d'Allah azza wa jal, que dire de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est la première fois où il l'a vu. Il l'a vu une deuxième fois, à quel moment? Au cours du voyage nocturne, où il se présenta à lui sous sa véritable forme. Et c'est de ça qu'Allah a parlé dans les versets dont vous venez d'entendre les sens, qui sont les versets que vous retrouvez dans Surat An-Najm, l'étoile.
فالصحيح من قول المفسرين بل المقطوع به أن المتدلي في هذه الآية هو جبريل عليه السلام كما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ذاك جبريل فقد قطع هذا الحديث النزاع وأزاح الإشكال.
En effet, selon l'interprétation la plus juste des exégètes, qui est en réalité la seule interprétation possible, celui que ce verset décrit comme étant descendu à Jibril, comme l'indique un hadith rapporté dans les deux recueils authentiques d'après Aïcha radiallahu anha, qui relate avoir interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ses paroles. Il répondit qu'elle se rapportait à Jibril alayhi salam. Ce hadith coupe court à toute discussion à ce sujet. Pourquoi toute discussion à ce sujet? Car on a vu que certains ont dit qu'ici il s'agit d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'il s'est rapproché, lorsque le prophète s'est rapproché au cours du voyage nocturne, il s'est élevé au-dessus du septième ciel, il s'est rapproché et n'a cessé de se rapprocher jusqu'à ce qu'Allah s'adresse à lui, Azza wa Jal. Alors qu'en réalité, même si les termes qui sont utilisés sont les mêmes que l'on retrouve dans le hadith de Aïcha qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, dans le hadith, on nous enseigne que dans le verset, ce qui est voulu, c'est Jibril alayhi salam, qui s'est rapproché du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ici dans la traduction, et fut à une distance égale à la longueur de deux arcs, voire plus près encore. Et on voit les mêmes termes dans un hadith, mais par contre, on nous parle d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, dans les versets, c'est Jibril qui est mentionné. Et dans un hadith qui est rapporté par le Bukhari, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Le tout, bien sûr, au cours du voyage nocturne. وقد قدمنا أنه اجتمع بالأنبياء ورآهم على مراتبهم ورأى خازن الجنة وخازن النار وشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها وتلقاه المقربون من الأخرى وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة حسنه الألباني رحمه الله لغيره تفرد به عباد بن منصور وفي حديث آخر إلا قالوا يا محمد مر أمتك يستكثر من غراس الجنة سبحان الله والحمد لله الحديث وهما غريبان. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala continue et dit: nous avons également évoqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut réuni aux autres prophètes qu'il vit chacun au rang qui est le sien. Et vous vous souvenez, on a vu ça justement dans le chapitre sur le voyage nocturne, quand on a dit et lu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est déplacé sur le dos de la monture nommée Al-Buraq de Mecca jusqu'à la Palestine, où il a prié deux unités de rak'a en tant qu'imam et il a dirigé la prière des prophètes qui sont venus. Nous avons dit aussi que les savants ont cité que Allah tabaraka wa ta'ala a fait mourir les prophètes, n'est-ce pas qu'ils sont morts? Leurs corps sont dans les tombes. Et Allah Azza wa Jal a fait venir les prophètes, mais pas avec leurs corps, comme a cité Cheikh Abdul Razzaq, hafidhahullah, à l'exception de Isa. Pourquoi? Parce que Isa n'est pas mort, alayhi salam. Isa est venu véritablement avec son corps, alayhi salam. Donc le prophète a prié et a dirigé une prière en compagnie de l'ensemble des prophètes. Et ceci nous montre le rang qu'occupait le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez Allah Azza wa Jal, puisqu'il a dirigé leur prière. Ibn Kathir continue et dit: il vit également lors du voyage nocturne le gardien du paradis et celui de l'enfer. Il vit d'ailleurs le paradis et l'enfer. Vous vous souvenez qu'il a vu le gardien de l'enfer qui ne souriait pas. Et quand on lui a demandé, ou quand il a interrogé, on lui a dit que c'était le gardien de l'enfer. Et le gardien de l'enfer a un nom qui est cité dans le Coran. Il s'appelle Malik. وَقَالُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ Les gens de l'enfer diront « Ô Malik, demande à ton Seigneur de nous achever. » Il vit aussi le paradis. Les anges rapprochés de chaque ciel accompagnèrent le messager sallallahu alayhi wa sallam au ciel supérieur, dont les anges l'accueillirent à leur tour. Par ailleurs, dans les Sunan, c'est-à-dire de l'imam Tirmidhi rahimahullah, ce recueil de récits prophétiques, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lors de mon voyage nocturne, je n'ai pas croisé un groupe d'anges sans qu'ils ne me disent « Ô Muhammad, ordonne à ta nation d'avoir recours à la hijama. » La hijama, c'est la saignée. C'est une pratique qui a des vertus médicinales qui consiste à utiliser une ventouse pour aspirer le sang dans une partie du corps, le dos, la nuque et autres, puis enlever cette même ventouse, faire des entailles avec une lame, remettre cette ventouse, aspirer et faire sortir ce sang. Et c'est une pratique utilisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi rahimahullah, et Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala a cité dans As-Silsila As-Sahiha son recueil de hadith qu'il a jugé authentique, qu'il est bon, donc on peut le prendre pour preuve. Seul Abbad ibn Mansour rapporte cette version. Dans un autre hadith, il a dit « Sans qu'ils ne me disent, ô Muhammad, ordonne à ta nation de multiplier les plans du paradis, que sont les paroles « Subhanallah, Alhamdulillah ». Et quant à ce hadith, le Cheikh Abdelrazzaq a dit qu'il a cherché les versions de ce hadith dans les sources et ne l'a pas trouvé. Par contre, ce qu'il a trouvé, c'est que c'est Ibrahim alayhi salam qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci est connu, il a recommandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'encourager la communauté à multiplier la prononciation de ces paroles qui sont des plans du paradis, c'est-à-dire qu'elles porteront des fruits que va récolter cet individu au paradis avec les paroles Subhanallah wa bihamdi, Alhamdulillah, etc. Qala rahimahullah, wa nazala alayhi Jibril wa alayhi salam bil Qur'ani anillahi azza wa jalla ala qalbihi al-karim. وفي السيرة أنه أتاه ملك الجبال يوم قرن الثعالب برسالة من الله تعالى فقال إن شاء أن يطبق عليهم الأخشبين فقال بل أستأني بهم. وفي صحيح مسلم أن ملكا نزل بالآيتين من آخر سورة البقرة. ابن كثير رحمه الله تعالى دي En outre, Jibril est descendu sur lui, c'est-à-dire il est descendu vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, porteur du Qur'an qu'il a placé dans son cœur. Il fait référence au verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ar-ruhu al-amin, ala qalbika litakuna min al-munzirin, bilisanin arabiyin mubin. » Le sens rapproché, en réalité, c'est une révélation émanante de ton Seigneur par laquelle l'esprit digne de confiance, c'est-à-dire Jibril, est descendu ala qalbika, sur ton cœur, litakuna min al-munzirin, afin que tu fasses partie des avertisseurs, bilisanin arabiyin mubin, dans une langue arabe claire. Jibril alayhi salam a été l'intermédiaire entre Allah azza wa jal et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la révélation. Pour la révélation et non pas pour l'adoration. Car pour l'adoration, il n'y a aucune intermédiaire entre Allah azza wa jal et son serviteur. Ibn Kathir a dit wa fi sira, c'est-à-dire il est rapporté. Donc vous voyez dans la traduction, il dit il est rapporté dans les deux recueils authentiques. Pourquoi ? Car il y a plusieurs impressions de ce livre. La première, il est dit, wafisira, c'est-à-dire dans la biographie, dans les sources de biographie, les livres. Dans une, il est dit, wafisahihain, et dans les deux recueils authentiques. Cheikh Abd al-Razak a dit, wahual akrab, c'est-à-dire c'est la plus proche. Donc, il est également rapporté dans les deux recueils authentiques, Al-Bukhari et Muslim, que l'ange des montagnes se présenta à lui, sallallahu alayhi wa sallam, à un endroit dénommé Qarn al-Tha'alib. Et Qarn al-Tha'alib, c'est l'endroit où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a reçu la visite de Djibril, qui était en la compagnie de l'ange des montagnes. À quelle histoire ? Quelle histoire ? Naam. Youssouf. Quelle histoire ? Naam. L'histoire de Taïf. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé à Taïf et il a voulu les appeler à Allah et ils ont envoyé les gamins du village lui jeter des pierres pour le faire sortir de Taïf et pour lui montrer qu'il n'était pas la bienvenue ici. Arrivé à un endroit appelé Qarn al-Tha'alib, en chemin vers le retour, en sortant de Taïf, Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé Djibril en compagnie de l'ange des montagnes qui lui a dit, si tu veux, tu me donnes l'ordre et j'écrase les deux montagnes, il n'en restera plus aucun. C'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Naam. Barakallahu fik. Jazakallahu khayran. Qu'Allah te récompense. Et peut-être qu'avec cette réponse, tu as gagné une récompense que seul Allah connaît. Et il vous a devancé. Alhamdulillah. Effectivement, il a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pardon, le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit non, j'ai été envoyé en miséricorde. Il se peut qu'il va être issu de l'un d'entre eux un serviteur qui adore Allah seul et sans associé. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on avait dit, Abdel Ghani? On avait retenu que la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prêche, était centré, axé sur le tawhid, sur l'unicité d'Allah. Il n'appelait pas à sa personne, alayhi salatu wa sallam. La plus grande preuve, on lui lance des pierres, on le fait sortir de Taïf, et lui, il cherche encore une chose, il espère que quelqu'un ici va naître et va adorer Allah seul et sans associé. Le reste, peu importe. Voici la da'wa du prophète et de tous les prophètes, alayhim as-salatu wassalam. Avec un message de la part d'Allah, lui demandant s'il voulait qu'Allah écrase son peuple entre les deux montagnes qui entourent la Mecque. Il répondit qu'il préférait, au contraire, attendre qu'il se repente et suivre le droit chemin. Par ailleurs, dans le recueil de Muslim, il est rapporté qu'un ange descendit avec les deux derniers versets de la sourate Al-Baqara. Et donc, cette histoire est rapportée par l'imam Muslim. Aman al-Rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Les deux derniers versets de sourate Al-Baqara. Des anges sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont annoncé la bonne nouvelle qu'Allah lui a donné deux lumières. Sourate Al-Fatiha et les deux derniers versets de sourate Al-Baqara. Et dans un autre hadith, on voit que celui qui récite les deux derniers versets de sourate Al-Baqara avant de se coucher, elles lui seront suffisantes, c'est-à-dire contre tout mal. Wa fi maghazi al-Umawi
wa huwa min kutub as-sirah al-mafquda an abihi قال وزعم الكلبي وهو رجل متهم بالكذب وهذا الحديث لا يصح عن أبي صالح عن ابن عباس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الأقباض أي الغنائم وجبريل عن يمينه إذ أتاه ملك من الملائكة قال يا محمد إن الله يقرأ عليك السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السلام ومنه السلام وإليه السلام فقال الملك إن الله يقول لك إن الأمر الذي أمرك به الحباب بن المنذر
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل عليه السلام هل تعرف هذا؟ قال ما كل أهل السماء أعرف وإنه لصادق وما هو بشيطان. قال ابن كثير وهذا وإن كان إسناده ليس بذك إلا أن له شاهدا. قال الشيخ عبد الرزاق إلا أن هذا الشاهد ليس له في الحقيقة كما سنرى. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل على أدنى مياه بدر قال له الحباب بن المنذر يا رسول الله إن كنت نزلت هذا المنزل بأمر الله فذاك، وإن كنت إنما نزلته للحرب والمكيدة فليس بمنزل. فقال بل للحرب والمكيدة. قال فانطلق حتى نجلس على أدنى المياه من القوم ونعور ماذا؟ ونعور ما وراءنا من المياه كما تقدم في قصة بدر. طيب. ابن كثير رحمه الله تعالى va maintenant citer une source dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'on appelle Maghazi al-Umawi. C'est un livre qui a été perdu. C'est un livre ancien de biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été perdu. On y trouve ce que dit Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Dans le livre intitulé Al-Maghazi, les expéditions, Al-Umawi rapporte, d'après son père, d'après ce que prétend Al-Kalbi, d'après Abu Saleh, ce récit qu'il attribue à Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Donc, ce récit que vous allez entendre est faux, car il est rapporté par le dénommé Al-Kalbi. Et Al-Kalbi était quelqu'un qui mentait et forgeait et inventait des hadiths. Alors, donc, entre guillemets, alors que le prophète rassemblait le butin, Jibril, se trouvant sur sa droite, un ange se présenta à lui et lui dit « Ô Muhammad, Allah te transmet le salam. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit « Il est le salam, de lui vient le salam et à lui va le salam. » L'ange dit alors, Allah t'informe que ce que t'a recommandé Al-Hubab ibn al-Mundhir est juste. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda ensuite à Jibril s'il connaissait cet ange. Jibril répondit, je ne connais pas tous les habitants du ciel, mais il dit la vérité et ce n'est pas un shaytan. Donc Ibn Kathir a cité ce passage, bien qu'il soit faux, dans ce chapitre, parce qu'on nous parle des choses qu'a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il est dit qu'il aurait entendu cet ange s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'en réalité ce hadith est faux. Ibn Kathir dit même si la chaîne de narrateur de ce récit ne vaut pas celle du hadith précédent, il est soutenu par un récit concordant. Donc des fois des hadiths sont faibles, mais il existe d'autres récits qui sont concordants et qui donc viennent renforcer la faiblesse de ce hadith pour l'élever au statut de bon ou autre. Mais l'autre récit qui est jugé concordant par Ibn Kathir, en réalité, ne parle pas de cette histoire-là. Cette histoire-là est fausse. Et le récit qu'il a jugé concordant est une véritable histoire, vous allez l'entendre. En effet, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam installa son campement en contrebas du point d'eau de Badr, donc ici nous parlons de la bataille de Badr. Souvenez-vous, lorsque le prophète a commencé à s'installer, qu'est-ce qui s'est passé? Le compagnon Al-Hubab ibn al-Mundhir est venu le voir et lui a dit, ô messager d'Allah, si c'est Allah qui t'a ordonné de camper ici, alors soit. Mais si tu as choisi toi-même cette position pour mieux affronter et surprendre l'ennemi, alors sache que ce n'est pas une bonne position. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit pour mieux affronter et surprendre l'ennemi. Al-Hubab lui a dit fais lever le camp et rendons-nous à la source d'eau la plus basse où nous installerons notre campement. Emplirons ensuite les sources que nous laisserons derrière nous. Vous vous souvenez de ce passage dans le chapitre sur la bataille de Badr? Quand le prophète arrive alayhi salatu wa salam, il fait halte, il s'arrête dans un endroit pour se préparer à la rencontre de l'ennemi. Al-Hubab vient le voir et lui dit: « Ô messager d'Allah, est-ce que ce choix vient d'Allah Azza wa Jal? Dans ce cas, on s'y soumet? Ou bien il vient de ton effort d'interprétation? Alors si c'est le cas, il n'est pas bon de s'arrêter ici. » Le prophète lui dit: « Oui, c'est vrai, alayhi salatu wassalam, on s'est arrêté ici, c'est mon effort d'interprétation pour ruser avec l'ennemi. » Et là, Al-Hubab lui a dit: « Non, ne reste pas ici. Si ça ne vient pas d'Allah, alors je te conseille de ne pas rester ici. » Ils se sont déplacés vers le point d'eau le plus bas et tous les autres points d'eau, ils les ont bouchés. Donc, Quraysh ne pouvait pas avoir d'eau. Et c'était une bonne technique pour infliger une grande perte à l'ennemi. Ce récit a d'ailleurs déjà été mentionné dans le chapitre consacré à la bataille de Badr. Donc ceci, on l'a déjà dit. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم حدث عن حس بن ساعدة الإيادي بما سمعه يقول بسوق عكاظ وفي سنده نظر وفي صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس أنه صلى الله عليه وسلم حدث على المنبر عن تميم الداري بقصة الدجال. وهنا ينتهي الباب. Il achève le chapitre en rapportant ceci. Il a également dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporta les paroles qu'il entendit Qis ibn Sa'ida al-Iyadi prononcées dans le marché de Ukav. Néanmoins, la chaîne de narrateurs de ce hadith n'est pas sans faiblesse. Enfin, l'imam muslim rapporte dans son recueil, d'après Fatima bint Qais, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le mimbar relata, d'après Tamim al-Dari, l'histoire du faux Masih al-Dajjal. Donc c'est une information que leur avait donnée le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il se trouvait sur le mimbar. Et ainsi s'achève ce chapitre. Qala rahimahullah faslun. وسمع منه أصحابه بمكة والمدينة وغيرهما من البلاد التي غزا إليها وحلها بعرفة وبعرفة ومنى وغير ذلك. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ففتح الله أسماعنا حتى إنا كنا لنسمع ونحن في منازلنا. قال ابن كثير: فقد سمع منه الجن القرآن وهو يقرأ بأصحابه بعكاظ وجاءوه فسألوه عن أشياء. Le chapitre suivant porte sur ce que les compagnons ont entendu de lui sallallahu alayhi wa sallam et donc rapporté. Vous allez voir que Allah Azza wa Jal a fait que beaucoup des compagnons ont pu prendre de lui des informations qui nous ont été rapportées jusqu'à nos jours. Il dit: ses compagnons ont entendu et rapporté ses paroles à la Mecque, à Médine, ainsi que dans d'autres cités qu'il a attaquées ou dans lesquelles il s'est simplement arrêté, comme Arafah, lorsqu'il s'est adressé à ses compagnons et a prononcé le discours d'adieu, très connu, à Mina, un des lieux de rite du pèlerinage, et dans d'autres lieux. D'ailleurs, dans le hadith, Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu raconte ce récit du jour de Arafah et dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a sermonné le jour alors que nous étions à Mina. Allah azza wa jal a ouvert notre audition à un point où tout le monde a pu l'entendre et chacun était chez lui. Allah Azza wa Jal a fait en sorte que les compagnons puissent entendre le discours prononcé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était à Mina et eux étaient dans leur demeure. Donc beaucoup de compagnons ont entendu les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi à Arafah, Mina et d'autres lieux. Par ailleurs, les djinns l'ont écouté réciter le Coran devant ses compagnons à Ukav. Donc il y a même une sourate qui s'intitule Suratul Jin. Et il y a aussi un passage de Surat Al-Ahqaf où Allah Azza wa Jal rappelle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam ce moment où il récitait le Coran et des djinns sont venus. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. Et lorsque nous avons dirigé vers toi un groupe de djinns qui écoutaient attentivement le Coran, فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا. Lorsqu'ils se sont présentés, ils ont dit écoutez très attentivement. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Puis lorsque fut terminée la récitation, ils reprirent le chemin vers leur peuple. Jusqu'à la fin des versets où ils ont prêché. Ils ont entendu le Coran et ils ont prêché. Les djinns ont entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ont rapporté de lui. Ils ont rapporté de lui le Coran qu'ils ont entendu. Les djinns l'ont écouté réciter le Coran devant ses compagnons à Oukav. Ils s'approchèrent alors de lui et l'interrogèrent. ومكث معهم ليلة شهدها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلا أنه غير مباشر لهم لكأنه كان ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان محوط عليه لئلا يصيبه سوء. Il dit, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم passa une nuit en leur compagnie, en présence également de Abdullah ibn Mas'ud, qui n'était pas directement à leur contact. Donc le prophète a passé une nuit à prêcher les djinns. Abdullah ibn Mas'ud était à côté, mais il n'a pas assisté. Il n'était pas directement avec les djinns. Mais il était en retrait. Il surveillait le prophète صلى الله عليه وسلم. Ibn Mas'ud attendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un endroit entouré d'un trait au sol qui devait le protéger de leur mal. Un groupe de ces djinns originaires de la ville. فَأَسْلَمَ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ جِنِّ نَصِيبِينَ رضي الله عنهم أجمعين وَقَدْ رَوَيْنَا فِي الْغَيْلَانِيَّاتِ خبرا من حديث رجل منهم يقال له عبد الله سمحج وفي إسناده غرابة أي لا يصح. فقد جاء جبريل في صورة رجل أعرابي فحدثه عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة. ابن كثير achève ce chapitre en disant: un groupe de ces djinns originaires de la ville de Nasribin embrassa l'islam qu'Allah les agrée. Il nous a d'ailleurs été rapporté un hadith dans Al-Ghaylaniyat, c'est une source, au sujet d'un homme parmi eux appelé Abdullah Samhaj. Néanmoins, la chaîne de narrateurs de ce hadith n'est pas sans faiblesse. Effectivement, ce hadith a été jugé faible. Comme l'a cité Ibn Kathir rahimahullah ta'ala et d'autres parmi les savants du hadith. Par ailleurs, Jibril se présenta un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'apparence d'un bédouin et lui parla de l'islam, de la foi, de l'excellence et des signes avant-coureurs de l'heure. Le hadith est connu sous le nom de hadith Jibril. Terminé le dernier chapitre inshallah ta'ala. فصل قال الإمام أبو عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 60,000 30,000 بالمدينة وثلاثون ألفا في غيرها. وقال الحافظ أبو زرعة عبيد الله ابن عبد الكريم الرازي رحمه الله تعالى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رآه وسمع منه زيادة على 100,000. وقال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الحاكم النيسابوري روى عنه صلى الله عليه وسلم 4,000 صحابي
قلت أي ابن كثير قد أفرد الأئمة أسماء الصحابة في مصنفات على حدة كالبخاري في أول تاريخه الكبير وابن أبي خيثمة والحافظ أبي عبد الله بن مندة والحافظ أبي نعيم الأصبهاني والشيخ الإمام أبي عمر بن عبد البر وغيرهم. فقد أفرد أبو محمد بن حزم أسماءهم في جزء جمعه من كتاب الإمام بقي بن مخلد الأندلسي رحمة الله عليه وذكر ما روى كل واحد منهم. Le chapitre suivant porte sur le nombre de musulmans à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Abu Abdullah al-Shafi'i rahimahullah affirme qu'à la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans étaient au nombre de 60 000. 30 000 à Médine et 30 000 en dehors de cette ville. Selon l'érudit Abu Zur'a, Ubaydullah ibn Abdil Karim al-Razi, qu'Allah lui fasse miséricorde, à la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, plus de 100 000 musulmans avaient pu le voir et écouter de ses paroles. C'est ce que rapporte l'imam Abu Zur'a al-Razi. Et l'imam Abu Zur'a al-Razi fait partie des muhaddithoun, fait partie des plus grands savants du hadith et de la sunna. Et une parenthèse sur l'histoire de sa mort, rahimahullah ta'ala. Alors qu'il était à l'agonie, proche de la mort, des élèves se sont dit qu'il fallait aller le visiter pour lui faire dire la ilaha illallah avant de mourir. Et Abu Zur'a, c'est quelqu'un qui a secouru la sunna tout au long de sa vie. Et celui qui vit ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala lui apporte son secours. Alors qu'il était à l'agonie, deux de ses élèves se sont présentés à lui. Le premier a voulu citer le hadith de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui dont les dernières paroles seront la ilaha illallah entrera au paradis. En commençant par la chaîne de narrateur de hadith, la chaîne de transmission. Donc quand il a commencé la chaîne de transmission, il a oublié et il s'est emmêlé à un point où il a dit: j'ai l'impression que je n'ai jamais appris ce hadith. Puis le deuxième prend la parole, commence à citer la chaîne de transmission et oublie. Il dit: je me suis emmêlé, j'ai eu l'impression de ne jamais connaître ce hadith. Et Abu Zur'a rahimahullah était souffrant et mourant. Il était allongé et avec sa main il a fait signe à ses élèves: mettez-moi en position assise. Puis ils l'ont pris et ils l'ont mis en position assise, et alors il a commencé à citer la chaîne de narrateur du hadith. Un tel a rapporté que un tel a dit, que un tel a dit, jusqu'à Mu'adh ibn Jabal qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Puis il cite le hadith, et le hadith c'est: man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, celui dont les dernières paroles seront la ilaha illallah entrera au paradis. Abu Zur'a cite toute la chaîne de narrateur, puis il arrive au hadith. Et quand il s'arrête sur la ilaha illallah, il tombe et il meurt. Rahimahullah ta'ala. Il tombe et il meurt, et il n'a pas pu dire entrera au paradis. Allah a voulu que ses dernières paroles soient la ilaha illallah et rien d'autre après. Rahimahullah. Abu Zur'a al-Razi. Mémorisez ce nom, il fait partie des savants de la sunna. Et c'est lui qui a dit, rahimahullah, man khafiyat alayna bid'atuh lam taghfa alayna ulfatuh. Celui dont l'innovation nous est cachée, sa compagnie ne nous est pas cachée. Il cache son innovation, mais on sait qui il fréquente. Rahimahumallah ta'ala. Abu Zur'a rahimahullah a cité que quand est mort le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait plus de 100 000 musulmans qui avaient pu le voir et écouter ses paroles. Par ailleurs, l'érudit Abu Abdullah Muhammad ibn Abdillah ibn al-Hakim al-Naysaburi affirme que près de 4000 compagnons ont rapporté des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, les savants de référence ont consacré des ouvrages ou des chapitres entiers au nom de ces compagnons. À l'image d'Al-Bukhari, au début de son livre intitulé At-Tarikh al-Kabir d'Ibn Abi Khaythama. Donc c'est un livre d'histoire de l'imam al-Bukhari ou de ce dernier, Ibn Khaythama.
Ibn Abi Khaythama, de l'érudit Abu Abdullah Ibn Manda, de l'érudit Abu Nu'aym l'Asbahani ou encore de l'imam Abu Omar Ibn Abdul Barr. En outre, Abu Muhammad Ibn Hazm a rassemblé dans un ouvrage particulier leurs noms tirés du livre de l'imam Baqi Ibn Makhlad Al-Andalusi, c'est un grand savant de l'Andalousie, en mentionnant les hadiths rapportés par chacun de ses compagnons. D'ailleurs, si Allah le Très-Haut veut, nous y consacrerons par la suite un chapitre dans lequel nous ajouterons ce qu'il convient d'ajouter. Et finalement, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, n'a pas pu le faire. En tout cas, rien de connu n'a été cité d'Ibn Kathir comme livre, ou bien peut-être qu'il a écrit un livre dans ce sujet, mais qu'il a été perdu. Wallahu a'lam. Comme a dit Ibn Ashiq Abd al-Razak. Et si Allah le généreux nous le facilite, nous rassemblerons dans un ouvrage particulier les hadiths rapportés par chaque compagnon en précisant s'il est digne de foi ou non. C'est en Allah que nous plaçons notre confiance et que nous nous en remettons. Il n'y a de force et de puissance que par Allah. Tabaraka wa ta'ala. Hada akhiru kalamina. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين.